France Culture.
On ne se quitte pas sans un nouveau rendez-vous avec l'actualité de ce samedi 15 mars. Et c'est avec vous, Mélanie Kuzelevitch. Bonne journée.
Bonne journée à vous, Nicolas. Bonjour à tous. Une trêve encore loin d'être gagnée en Ukraine alors que les combats se poursuivent. Certains soldats ont posé leurs armes pour reprendre une vie civile après 3 ans de guerre. Portrait de l'un d'entre eux dans ce journal. Des victimes vont confronter 2 représentants de la congrégation de Bétaram. C'est aujourd'hui à Bayonne et c'est une première depuis que le scandale a éclaté. Et puis moins de fraude fiscale en France grâce à l'intelligence artificielle. Mais une fraude qui reste difficile à détecter, vous l'entendrez. À Londres, Keir Starmer va tenter de rallier les alliés de l'Ukraine, 25 dirigeants du monde entier réunis lors d'un sommet virtuel. L'objectif, savoir qui est prêt à soutenir l'Ukraine pour maintenir la paix et avec quels moyens. Mais un accord de paix est encore loin d'être trouvé. Le président Vladimir Poutine émet des réserves sur un cessez-le-feu de 30 jours. Sur le terrain, les soldats ukrainiens, eux, pensent qu'une paix durable est impossible avec la Russie. D'autres tentent de reprendre une vie civile après 3 ans de guerre, comme ce soldat de retour chez lui à Odessa que vous avez rencontré, Virginie Pironon.
Il nous souhaite la bienvenue, Grégory, dans son café-atelier.
Tour de France café.
Le café du Tour de France, une ambiance cosy où tout est dédié à cette course mythique qui fait rêver ce cycliste confirmé depuis qu'il est tout petit.
Avant la guerre, il commençait à y avoir pas mal d'entraînements ici. Les cyclistes passaient juste avant, puis se retrouvaient ici après pour manger, boire un café, se reposer. Mais la guerre a tout foutu en l'air. Beaucoup de cyclistes ont été envoyés à la guerre sur le front. On se soutient tous les uns les autres.
À 39 ans, enrôlé dans les forces spéciales ces 3 dernières années, Grégory a eu le droit de quitter l'armée au mois de janvier parce qu'il a 3 enfants.
La plupart des opérations d'envergure que nous avons menées avaient lieu côté russe, derrière la ligne de front.
Grégory, qui a pu rouvrir son atelier de réparation juste à côté, ne souhaite pas s'attarder sur ce qu'il a vécu au front. Mais après ce qu'il a vu, il ne croit pas à la paix avec le voisin russe.
Je pense qu'une paix définitive, totale, non, ça n'arrivera pas. On est désormais un peu comme des lions face à des hyènes. Donc, je ne pense pas.
Les larmes aux yeux, Grégory confie que c'est la première fois depuis son retour du front qu'il discute à nouveau de ses projets. Merci, nous dit-il, ça fait tellement de bien.
Le reportage à Odessa de Virginie Pironon, Yachar Fazilov et Martin Troadec. Une nouvelle panne de courant généralisée plonge Cuba dans le noir. C'est la 4e coupure géante en 6 mois. La dernière avait duré plusieurs jours. Une situation de plus en plus insoutenable pour la population. C'est le sujet du grand reportage d'hier de Maïlis Kider. 3 mois dans Cuba en crise. À retrouver sur franceculture.fr. 2 victimes de l'affaire Bétaram devant des représentants de la congrégation. Ça se passe à Bayonne lors d'un forum public consacré aux violences sexuelles organisées par une ONG. Et c'est une première depuis que le scandale de violences sexuelles a éclaté au sein de l'établissement catholique béarnais. Thomas Séchy.
Ce moment, Olivier Bunel l'attend depuis longtemps.
Ah, vous n'imaginez pas à quel point je suis pressé de les avoir devant moi, en fait. Il ne me tarde qu'une seule chose, c'est de pouvoir les regarder droit dans les yeux, en fait.
Les viols et les violences subies à Bétaram, il les a déjà racontés à la radio et à la télé, mais devant des responsables de la congrégation, jamais.
J'ai un quart d'heure pour expliquer un petit peu ce que j'ai pu vivre et ressentir là-bas. Pour ma part, j'ai préparé 5 pages, hein. Ça m'a pris une journée entière. Je vais lire devant tout le monde et bien évidemment, je vais les nommer à plusieurs reprises. Donc maintenant, à eux après de faire le travail et peut-être de venir vers nous.
Eux, ce sont le père Laurent Vachaud et le vicaire régional Jean-Marie Ruspil, représentant les prêtres de Bétaram. Ils n'ont pas prévu de répondre aux témoignages, mais leur simple présence dans le public pour écouter les victimes est un signal positif pour Jean-Pierre Massia, président de l'Institut pour la justice et la démocratie qui organise cette journée.
On va amorcer un dialogue, non pas dans le sens d'absoudre les prêtres de leurs responsabilités, mais de les amener à participer au mieux qu'ils puissent à la reconnaissance de leurs responsabilités et accompagner la reconstruction. Des victimes.
Représentants de Bétaram et victimes pourraient même se rencontrer à huis clos à la fin de la journée.
Et ce matin, ici, Limousin révèle que 2 anciens élèves d'une école catholique de Limoges dénoncent des abus commis par des prêtres, disent-ils, de la congrégation de Bétaram. D'importants moyens déployés pour lutter contre la fraude fiscale depuis 2023, ça a apporté ses fruits, se félicitent les ministères des Comptes publics et du Travail. Plus de cas sont détectés, mais les chiffres sont encore loin des objectifs fixés, Valentin Gris.
La détection de la fraude fiscale a bien progressé en 2024. Elle atteint 16,7 milliards d'euros contre 15,2 l'année précédente. Les recouvrements aussi progressent, passant de 10,6 à 11,4 milliards d'euros. Le fruit de 780 postes réaffectés ou créés pour les contrôles et des progrès technologiques. L'intelligence artificielle avec les techniques de data mining, soit le traitement des informations, a permis de générer 400 millions d'euros de recouvrement en plus sur un an, ce que souligne Amélie de Montchalin.
Si on trouve un mécanisme sophistiqué de fraude dans un département, on applique par le data mining le filtre au fond pour faire remonter les cas dans d'autres départements, ça nous permet du coup de dimensionner l'effort à faire et donc d'aller récupérer des montants.
Mais dans l'angle mort de ces progrès, par ailleurs moins rapides que ceux de la fraude sociale, reste la méthode d'évaluation de la fraude fiscale. L'exécutif avait mis en place un conseil d'évaluation des fraudes fin 2023. Il n'a pas été réuni par la ministre depuis décembre, malgré une bonne volonté affichée.
C'est un travail évidemment qui demande beaucoup d'approches précises, parce qu'on peut mettre d'énormes montants ou être à côté justement de la réalité des fraudes. Moi, je suis prête à continuer évidemment ces travaux d'évaluation.
Mais la Cour des comptes, dans un rapport de novembre 2023, soulignait que la France ne se dotait pas d'outils d'évaluation poussés, ni de la fraude, ni de l'écart fiscal qui ajoute fraude et erreur de déclaration. Ce dernier pourrait se situer entre 30 et 100 milliards d'euros par an. Même avec une détection record de 16 milliards, impossible donc de savoir si la France se montre efficace dans sa lutte contre la fraude fiscale. L'exécutif, lui, martèle plutôt qu'il souhaite s'attaquer aux niches fiscales en éludant la question de l'évaluation.
Valentin Gris du service économique de France Culture. L'intelligence artificielle, on y revient à 12h30. Les outils de l'IA favorisent-ils l'usage de la langue française? On pose la question à notre invité Laurent Besassier, enseignant-chercheur au laboratoire d'informatique de Grenoble. Un mot de météo avec la Creuse, l'Allier et le Puy-de-Dôme, toujours en vigilance orange pour neige et verglas jusqu'à ce soir. Dans le reste de la France, le ciel est chargé à l'est et sec à l'ouest. Il fera 6 degrés à Amiens, 9 à Rennes et jusqu'à 15 degrés à Nice.